Chapitre 5. Les années sombres commençaient. Pauvre Sophie, elle n'avait pas prévu qu'il viendrait le jour où elle serait écrasée sous les éblouissements de son passé. Comme il s'était enfui vite, ce passé, déjà, ce n'était plus qu'un songe. Que lui restait-il encore de tous ses enchantements? La jeunesse s'était envolée et, avec elle, beauté, talent, fortune. L'esprit lui était fidèle encore, mais on commençait à le taxer de méchanceté et d'envie. Peut-être disait-on vrai. Chez ces pauvres vieilles femmes, l'esprit tourne allègre comme les vins précieux dans des bouteilles mal bouchées. Il faut cependant y venir et s'y arrêter à cet esprit de Sophie Arnoux, son plus sérieux titre de gloire, pour nous son plus grand charme. Il est venu jusqu'à nous, cet esprit, de bouche en bouche, avec l'anecdote libre et la chanson, comme un écho affaibli mais fidèle du XVIIIe siècle. À côté de Beaumarchais, de Chancenay et de Rullière, Sophie Arnoux tient vaillamment sa place et paie son écho argent comptant. Comme Rivarol, en son genre et toute proportion gardée, elle fut une virtuose de la causerie, comme lui, elle s'exalte et se grise de sa propre parole. Elle possède au plus haut degré tout ce qui est véritablement l'esprit, c'est-à-dire le trait, l'éclair, le brillant. Elle voit vite et frappe juste. Pour arriver au mot heureux, il ne lui faut ni délai ni rendez-vous, et une fois sa verve allumée, le feu d'artifice sur ses lèvres ne s'éteint plus. Ses saillies et ses mots lui avaient valu le surnom de Piron femelle, mais de Piron, elle n'a ni la naïveté gauloise, ni la malice narquoise, ni la fausse bonhomie. Elle a l'accent plus âpre et le ton plus cru, c'est moins la batte d'Arlequin qu'elle manie que le stylet. Chez Piron, l'ironie est finement et délicatement voilée, il ne lance pas une flèche qui siffle, il la laisse tomber. Pour démêler l'épigramme, il faut parfois la chercher, tant à première vue, elle ressemble à un éloge. On n'a pas cette peine avec Sophie, ses méchancetés sont plus vertes. Ses égratignures décèlent l'ongle d'une femme, et tandis que Piron effleure à peine l'épiderme, on saigne sous sa griffe. Pour nous, qui n'avons pas à le redouter, nous ne pouvons qu'admirer cet esprit qui vole et qui frappe, esprit de toutes les heures et de toutes les circonstances. Elle est le petit journal de son temps, satire, pamphlet, épigramme. Quelle verve et quelle ironie! Elle parle et elle donne la volée à des essaims de guêpes qui s'en vont bourdonnantes et piquants. Et comme elle entend le ridicule, cette comédienne, comme elle le saisit, comme elle arrache un masque quand elle veut frapper au visage. À elle, la phrase nette, le mot incisif, le tout rapide et heureux. Elle a l'image saisissante et la soudaineté d'expression. Parfois, naturellement, sans s'en douter presque, elle arrive à la profondeur. Tel de ses calembours analyse une situation, tel mot est un portrait fortement frappé, et le calembour et le portrait sont restés. Sans doute, on lui a prêté beaucoup, on ne prête qu'aux riches, mais on lui a beaucoup emprunté aussi. Elle se mêlait de tout, et un peu sur chaque question, elle a dit son mot. Il fallait que tout passât par sa langue, la mode et la politique, la cour et l'opéra. Aussi, les correspondances et les mémoires enregistrent un de ses mots presque à chaque page, il n'y a qu'à ouvrir le livre et à copier. Quelqu'un montrait à Mademoiselle Arnoux une tabatière ornée des portraits de Sully et de M. de Choiseul. « Fort bien, dit-elle, c'est la recette et la dépense. » Mademoiselle Arnoux, ayant rencontré un financier très connu pour ses dilapidations et lui voyant un superbe manchon, s'est écriée « Comment peut-il avoir froid aux mains? Il les a toujours dans nos poches. » La pièce de Guillaume Tell n'ayant aucun succès, Mademoiselle Arnoux disait « C'est ici le contraire du proverbe « Beaucoup de Suisses et pas d'argent ». On parlait devant Mademoiselle Arnoux du mal dont est atteint M. de la Harpe et qui, dit-on, est la lèpre. « Eh bien, dit-elle, c'est tout ce qu'il a des anciens. » Sortant du bois de Boulogne, où quelques personnages de la cour venaient d'assister à un duel sans résultat fâcheux pour aucun des adversaires, Mademoiselle Arnoux dit en montant en carrosse « Ils m'ont fait un mal affreux. Je n'y retournerai pas quand je serai sûre qu'ils se tueraient tous les deux. » On disait devant Mademoiselle Arnoux que la pièce de M. de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, tomberait. « En effet, répondit-elle, c'est une pièce à tomber 40 fois de suite. » Mademoiselle Guimard, à ses jours passés, envoyait à Mademoiselle Arnoux une lettre très injurieuse où elle lui reproche d'avoir tous les vices. Mademoiselle Arnoux, pour toute vengeance, a retourné la lettre à celle qu'il avait écrite avec ses mots au bas « Fais double entre nous !» Mais toutes ces saillies, tirées de leur cadre et groupées comme en un recueil d'Anna, perdent de leur prix et servent peu à faire comprendre l'esprit de Sophie Arnoux. On ne saurait d'ailleurs citer ses plus beaux traits. Sa verve licencieuse et débraillée épouvanterait. Notre palais n'est plus accoutumé à cette saveur trop salée de l'esprit. Et combien de mots de Sophie, encore, qui sont tombés dans le domaine public, dont l'effigie, à force de circulation, s'est effacée. Il est telle réponse de Sophie que se lèguent depuis le commencement de ce siècle toutes les générations de comédiennes. Si souvent, la causerie n'est que l'esprit des autres. C'est elle qui, la première, à quelqu'un qui lui disait « L'esprit court les rues », a répondu « C'est un bruit que les sots font courir ». Précisément, à cause de cet esprit, la solitude était insupportable à Sophie Arnoux. Il fallait un auditoire à ce talent naturel d'improvisation. Le théâtre lui était fermé, elle ouvrit un salon à l'enseigne du scandale. « La demoiselle Arnoux tient un bureau d'esprit et de méchanceté », écrit la harpe. Si, vers la fin, lorsque les créanciers la harcelaient, on fit maigre chère à ses soupers, on y mangea toujours gaiement son prochain. Il est pourtant une circonstance remarquable qui fait l'éloge de Sophie. Avec cette veine épigrammatique, ce grand penchant à la raillerie, elle sut garder ses amis. Le cœur restait bon, malgré la tournure de l'humeur. C'est à elle que Rullière a emprunté sa maxime fameuse « Les gens d'esprit se permettent quelquefois des bons mots, il n'y a que les sots qui fassent des méchancetés. » Comme Mademoiselle Arnoux, dont il a été l'amant, Rullière avait une dangereuse réputation. Lorsqu'il disait « Je n'ai fait qu'une méchanceté dans ma vie », Chamfort lui demandait « Quand finira-t-elle ?» Longtemps, les mardis de Sophie furent célèbres. Tous les grands hommes de la fin du XVIIIe siècle, y compris ceux du Petit Almanach, ont traversé cette maison hospitalière et s'y sont reposés un instant. C'était presque un honneur pour les étrangers de distinction d'y être admis. C'était comme un terrain neutre où les adversaires déposaient leurs armes et se saluaient courtoisement. On y causait, on y discutait de tout librement. La conversation y était enjouée, le mot libre, la morale facile. Les courtisans y apportaient tout chaud le cancan de Versailles, les philosophes, les feuilles encore humides de l'encyclopédie. Qu'il y eût un maître logis ou plusieurs, cela arrivait parfois, on n'était pas tenu de le savoir. On était alors à l'époque des délires de la philosophie. Sophie Arnoux ne pouvait manquer de donner dans les idées nouvelles. Elle devait cela au moins à Lauragais, ce fougueux partisan du progrès et de l'émancipation du genre humain. D'ailleurs, c'était la mode. Tout le monde était affolé de théories illimitées, enivré d'illusions. Elle devait, comme les autres, se laisser prendre à ces utopies abstraites qui devaient donner sans commotion le bonheur à l'univers. En cela, son salon refléta les mœurs du temps. Tour à tour, on y prit parti pour ou contre la cour ou les parlements. On y attaqua les inconséquences, les témérités, les légèretés, les demi-mesures des gouvernants. Mais, insensiblement, à mesure que les événements se pressaient, les réunions de Sophie se ressentirent des approches de la Révolution. On y haussa le ton. Les attaques devinrent plus amères et plus vives. Peu à peu, ces mardis se renouvelèrent. Les anciens habitués, grands seigneurs et petits poètes, s'éclipsèrent un à un. Ils cédaient leurs fauteuils aux hommes nouveaux du nouvel ordre de choses, aux marchands de théories, inventeurs de panacées sociales, aux tribuns de société, en train de s'exercer à la borne. Elle-même, de tout son esprit, de toutes ses forces, elle servait l'idée révolutionnaire. Pourquoi, elle n'aurait su le dire. Ses amis étaient des plus exaltés. Son salon, dit le comte de Tilly, finit par devenir un club. On n'en était encore qu'au prélude. Plus tard, elle regrettera amèrement sa folie. En attendant, elle envoyait ses fils aux Jacobins pour y apprendre à devenir des citoyens et des hommes. Et Champcenet de tremper sa plume au ruisseau et d'écrire dans sa chronique scandaleuse « Il y a des êtres qui ne mourraient pas contents s'ils ne s'étaient avilis de toutes les manières. La vieille Sophie Arnoux en est l'exemple. Après s'être livrée pendant 40 ans à tous les gredins de mauvais goût, elle vient de se faire démagogue afin de recevoir chez elle la lie de l'espèce humaine. Elle envoie étudier aux Jacobins 2 enfants qu'un galant homme lui fit jadis par mégarde. Enfin, elle justifie le mot terrible du marquis de Louvois, à qui on demandait pourquoi Sophie put étendre la bouche. « Parce qu'elle a le cœur sur les lèvres, » répondit-il. C'est ainsi que le clair de lune de Rivarol se venge du prince des nains. La honte de cette insulte retombe tout entière sur lui. Un des enfants dont il parle, Constant Brancas, ne tarda pas à prendre du service dans les armées de la République. Colonel sous l'Empire, sa bravoure et son mérite lui assuraient les plus hautes destinées lorsqu'il fut tué à Wagram.